Bien, nous allons reprendre. Je vois que les fêtes se rapprochent. Vous êtes de moins en moins nombreux. On ne peut pas accuser le froid cette fois-ci. Je vous avais laissé la dernière fois dans les négociations israélo-syriennes, l'échec de Shepherdstown qui est lié au comportement d'Ehud Barak qui n'a pas voulu chercher à conclure à ce moment-là, et le fait qu'immédiatement après la rencontre de Shepherdstown, des fuites ont divulgué une partie des idées développées lors de cette rencontre, ce qui a provoqué des fortes tensions à l'intérieur de la Syrie. Dernier événement sur ce point qui va encore compliquer les choses, c'est qu'à ce moment-là, le président Clinton rencontre le prince Bandar Ben Sultan, l'ambassadeur saoudien à Washington, qui est un peu l'éminence grise des rapports américano-arabes depuis une quinzaine d'années, au moins. Et Clinton saute sur l'occasion et demande à Bandar d'assurer à Assad qu'un accord est possible et que lui, Clinton, voudrait voir Assad quand les Américains auront ce qui est nécessaire de la part de Barak. L'ambassadeur saoudien comprend que le président lui a dit qu'il savait ce dont Assad avait besoin et qu'il était prêt à passer un accord sur cette base. Il ne rencontrerait pas Assad avant de l'avoir obtenu. Donc, c'est un message ambigu et un malentendu, puisque l'idée de Clinton n'est que de communiquer à Assad les positions définitives de Barak et non l'acceptation par Barak des positions syriennes. Et facteur supplémentaire, la mission de Bandar Ben Sultan à Damas se fera sans en informer le département d'État. Donc il y aura une surnégociation quelque part, ou en tout cas un message direct de la Maison-Blanche à Damas sans que Madeleine Albright en soit informée. En tout cas, il y a une pause sur le dossier syrien qui permet de relancer éventuellement le dossier palestinien. Mais ces négociations israélo-palestiniennes se poursuivent seulement pour la forme. Unilatéralement, le gouvernement israélien annule le 15 janvier 2000 le retrait prévu pour le 20 janvier. Officiellement, Barak n'a pas eu le temps d'étudier les cartes avant de les transmettre au cabinet pour le vote. L'enjeu réel est la demande palestinienne d'inclure dans leur retrait trois villages arabes à proximité de Jérusalem, dont celui d'Abu Dis, où on devrait établir plus tard le siège du Parlement palestinien. L'importance d'Abu Dis, c'est que du site d'Abu Dis, on a une vue directe sur le Haram el-Sherif et le Dôme du Roc. Et donc, on a l'impression à Abu Dis d'être à Jérusalem. Déjà, la droite israélienne accuse le Premier ministre de diviser Jérusalem avant le début des négociations. Et le maire de Jérusalem, Helmut Olmert, mène le combat contre cette cession qui conduirait à une pression permanente pour séparer Jérusalem-Est du reste de la ville. Alors, chaque parti soupçonne l'autre des plus noires intentions. La partie israélienne accuse l'autorité palestinienne de ne pas préparer l'opinion publique aux concessions nécessaires pour faire la paix, c'est-à-dire satisfaire les demandes israéliennes, tandis que la partie palestinienne soupçonne Israël de se servir de la négociation avec la Syrie pour affaiblir Arafat dans les négociations à venir, parce que si Israël signe la paix avec la Syrie, Arafat sera totalement isolé au moment de la négociation finale. Alors, pour calmer le jeu, Barak rencontre Arafat le 17 janvier et affirme que le redéploiement aura bien lieu avant la date limite, mais il se montre ambigu sur la question des trois villages. Et puis surtout, il marque qu'il n'y aura pas un redéploiement supplémentaire tel qu'il était prévu par les accords de Wye, puisque la question sera réglée lors de la négociation finale. Les Palestiniens tentent de lui faire comprendre qu'en aucun cas, les trois villages ne pourront servir de substitut à la partie arabe de la ville sainte lors de cette négociation finale. Arafat va le 20 janvier à Washington et demande à Clinton d'intervenir personnellement pour veiller à ce que les discussions marathon engagées à tous les échelons du volet palestinien aboutissent aux objectifs recherchés. Clinton l'assure de sa volonté de faire le maximum pour assurer un règlement de paix, tout en lui marquant que dans la négociation comme celle-ci, il faut des compromis inévitables et difficiles. Il continue ainsi de raisonner comme s'il y avait une symétrie des positions entre Israéliens et Palestiniens et que l'on pourrait ainsi, par retranchements successifs, rapprocher les positions. Officiellement, Israéliens et Palestiniens s'engagent à mener des discussions intensives pour arriver à un accord cadre avant le 13 février 2000, ce qui est la date prévue par l'accord de Sharm el-Sheikh, mais on se heurte toujours à la question du redéploiement israélien maintenant prévu pour le 10 février, tandis qu'on tente de relancer les négociations multilatérales à Moscou. Donc là, vous voyez Madeleine Albright avec Vladimir Poutine. Et on annonce la reprise des groupes de travail, ce qui est assez formel, puisque de toute façon, les partis arabes affirment que, vu l'état des négociations, on ne rediscutera réellement dans les multilatérales que quand les dossiers syriens et palestiniens seront bouclés. C'est surtout l'occasion pour Vladimir Poutine de revenir sur la scène diplomatique. C'est un homme neuf à ce moment-là, évidemment. Le dialogue israélo-syrien se poursuit par voie de déclaration publique. Damas exige un engagement écrit au retour des lignes du 4 juin. Et Barak répond qu'on ne s'engagera sur la ligne qu'une fois les accords de sécurité et de répartition des eaux conclus. Le 28 janvier, Ross rencontre discrètement à Genève le prince Bandar, de retour de Damas, où il aurait rencontré pendant 3h30 Hafez al-Assad. Le conditionnel s'impose pour la durée, vu l'état de santé du président syrien. Le message de Damas est clair. Assad est déterminé à passer un accord et a cru que Barak serait son partenaire. Maintenant, il n'est plus sûr, puisqu'il n'a pas joué le jeu à Shepherdstown. Assad n'est pas Arafat, on ne le traite pas de cette façon. Il ne peut se permettre des allers-retours permanents, il faut tout régler d'un coup. On peut procéder à la démarcation de la frontière en secret et la rendre publique une fois l'accord conclu, mais il doit y avoir démarcation. Les Israéliens ne veulent pas qu'ils négocient sur les exigences de sécurité. Ils ne peuvent pas s'attendre à ce qu'ils marchandent sur les lignes du 4 juin. Donc là, on est dans une formule que les diplomates aiment beaucoup, qui est sécurité contre territoire. En fait, paix contre paix, territoire contre la paix. Ici, c'est la formule sécurité contre territoire. Donc, le message est interprété comme disant que c'est un message sérieux. Reste toujours à savoir qu'est-ce que veut dire la formule les lignes du 4 juin. Est-ce un tracé déjà intangible ou un principe à partir duquel on peut négocier? Selon Ross, Bandar aurait marqué que Assad serait flexible sur cette question, mais Là, on est au conditionnel parce que les mémoires de Ross sont aussi un plaidoyer pro domo pour expliquer que, pourquoi les négociations ont échoué et pourquoi il n'en porte aucune responsabilité, que c'est la faute aux autres. Hein, donc, il faut toujours être très attentif dans ce genre document. En tout cas, Ross considère que Barak doit définir sa position ultime et la communiquer à Assad. Et sur cette base, il se rend en Israël au début février pour lui demander de présenter ses dernières positions. Barak accepte, mais à condition que ce soit Clinton en personne qui communique le texte à Assad. Dans la perspective de Barak, on ne refuse rien au président des États-Unis. Il faut donc déterminer une interprétation cartographique des lignes du 4 juin. La question se complique du fait que la dernière décennie a été une période de sécheresse et, conséquence, la rive du lac de Tibériade a considérablement régressé à l'ouest. C'est en particulier le cas dans la partie nord du lac. La frontière de 1923 passait à 10 mètres de la rive, mais si elle n'est pas déplacée, elle se trouve maintenant à plusieurs centaines de mètres de la rive. Donc, question de savoir si la frontière se déplace avec le lac, ce qui n'est pas facile à déterminer. Alors, une petite équipe américano-israélienne travaille sur les données cartographiques. On reprend toutes les cartes depuis 1923, plus les photographies aériennes et les photographies satellitaires pour pouvoir déterminer cette question de frontière. Apparemment, personne ne se pose la question de savoir s'il ne fallait pas demander aux Syriens ce qu'ils interprétaient comme étant les lignes du 4 juin. Barak peut se rendre compte que l'évacuation du Golan est loin d'être populaire chez ses compatriotes, mais avec raison, il considère que le dossier syrien est plus facile à résoudre puisque c'est un conflit territorial entre deux États que le dossier palestinien qui engage la définition même de l'identité israélienne. De plus, il s'est engagé à se retirer du Liban Sud où l'armée israélienne a encore perdu 3 hommes en janvier. Or, le principal moyen de pression syrien, c'est la guérilla du Hezbollah au Liban Sud. Paradoxalement, un retrait israélien unilatéral du Liban Sud affaiblirait substantiellement la position de Damas, alors que le Hezbollah, au contraire, intensifie ses opérations. D'où à la fois des raids de représailles israéliens, mais en même temps l'annonce par Barak que, quoi qu'il en soit, le retrait israélien aurait lieu d'ici juillet 2000. Le 3 février, Barak rencontre Arafat à Eretz pour l'informer du contenu du prochain redéploiement prévu pour la semaine suivante. Les 6,1% avancés ne comprennent pas les 3 villages à proximité de Jérusalem, mais des portions de territoire peu habitées dans la région de Hébron et de Naplouse. Aucune continuité territoriale de la zone A n'est proposée, et Arafat refuse et quitte la réunion. Les négociations sont suspendues. En revanche, le comité central de l'ONP réaffirme que la proclamation de l'État palestinien aura lieu, quoi qu'il en soit, le 13 septembre 2000, puisque ce sera la fin de la période intérimaire définie par les accords d'Oslo. Donc, à partir de ce moment-là, vous aurez une date symbolique qui est le 13 septembre qui va s'imposer dans le calendrier. Ostensiblement, les Américains se tiennent à l'écart du dossier et minimisent l'importance de l'impasse puisqu'il s'agit de gagner du temps pour avancer dans le dossier syrien. Donc, Ross revient en Israël le 21 février pour faire lanterner Arafat. Là, vous voyez Ross et Arafat. Et il lui expliquait qu'il ne faut pas que les Palestiniens insistent sur le dernier redéploiement. Mais en même temps, Ross explique à Barak qu'il faut cesser d'affaiblir perpétuellement Arafat parce qu'à la fin, il n'y aura plus de partenaires pour la négociation. Le climat est particulièrement tendu en Cisjordanie, où la jeunesse manifeste violemment contre les bombardements israéliens au Liban et la paralysie du processus de paix. En dépit du délai accordé, Barak n'est toujours pas prêt à faire sa représentation cartographique des lignes du 4 juin. Ce n'est qu'à la fin février qu'il s'y met au travail avec Ross. Barak s'en tient à la carte de 1967 qui fait qu'on serait à 400 ou 500 mètres du rivage actuel du lac. Il veut aussi la présence d'une dizaine d'Israéliens dans une station d'alerte sur le mont Hermon, au moins pour 7 ou 8 ans. Par contre, il est plus souple dans la définition des zones démilitarisées, enfin d'armement minimal, des deux côtés de la frontière. Pendant ce temps-là, le Premier ministre français, Lionel Jospin, se rend en Israël plein de bonnes intentions. D'une part, il veut marquer, dans le cadre de la cohabitation, l'importance que le Premier ministre a dans la définition de la politique étrangère française. Et puis surtout, il veut se démarquer de la politique arabe de la France qui est incarnée par Jacques Chirac. Il donc, ostensiblement, il prend des positions différentes du président de la République. Il rend hommage à Rabin, exprime sa sollicitude pour les Palestiniens et cherche à améliorer les relations franco-israéliennes. Le 24 février, dans une conférence de presse, il s'aligne complètement sur les positions israéliennes en qualifiant de terroristes les attaques du Hezbollah contre les soldats israéliens en territoire libanais et estime que l'État hébreu s'efforçait de son côté d'épargner les positions des populations civiles dans ses répliques. La France condamne, je cite, les attaques du Hezbollah et de toute façon toutes les attaques terroristes contre des soldats ou éventuellement les populations civiles israéliennes. Il récuse la qualité de résistance pour le Hezbollah et fait porter la responsabilité du blocage des négociations de paix sur la Syrie. Certes, en ami lucide d'Israël, il désapprouve la colonisation des territoires occupés, mais il s'en tient à la langue de bois américaine. Les colonies sont des difficultés pour la paix, alors que quelques années auparavant, on les définissait comme des obstacles. Il appelle Israël à se montrer généreux et courageux pour permettre la constitution d'un État palestinien viable, démocratique, stable et prospère. Cela provoque la colère du gouvernement libanais et un rappel à l'ordre discret de la part de la présidence de la République. L'atmosphère est d'autant plus lourde que le ministre israélien des Affaires étrangères, David Levy, vient de déclarer devant la Knesset qu'Israël est prêt à s'en prendre à la population civile libanaise en cas de bombardement de la Galilée. Je cite, « Si Kiryat Shmona brûle, le Liban brûlera, sang contre sang, enfant contre enfant. » En se rendant à Ramallah pour rencontrer Arafat et les membres du Conseil législatif palestinien le 25 février, Lionel Jospin mitige ses propos en parlant maintenant d'actes de guerre à propos du Hezbollah. Il insiste sur la nécessité pour le futur État palestinien de se doter d'institutions pleinement démocratiques. Mais c'est trop tard. Le 26 février, à l'université de Birzeit, il provoque la colère des étudiants en refusant d'assimiler l'occupation allemande de la France durant la Seconde Guerre mondiale à l'occupation israélienne du Liban. Quand il sort de l'amphithéâtre, il est reçu par des volées de pierre et doit partir précipitamment, ainsi qu'annuler une visite d'un camp palestinien. Arafat lui adresse ses excuses, mais celle qui a le mieux compris la situation est la représentante de l'OLP en France, Laïla Shahid, qui a regretté le cailloutage, mais qui l'a mis au compte d'un ras-de-bol des Palestiniens face au blocage du processus de paix. Je cite, « Le message a été transmis avec beaucoup de violence, mais peut-être était-ce un appel au secours. » Ce qu'il faut bien comprendre dans l'incident, qui est lui-même tout à fait mineur, c'est qu'il démontre la montée très forte des tensions dans les territoires, ce que les diplomates et les politiques, pris par la subtilité de leurs procédures et leurs artifices de vocabulaire, ne se rendent pas compte. Arafat aurait-il eu la volonté de faire passer les concessions qui pour lui sont des abandons exigés par les Israéliens et les Américains, il n'aurait pas les moyens de les faire accepter. De plus, les critiques constantes de son style autocratique et de la corruption comme moyen de gouvernement sont perçues par lui comme des manœuvres destinées à saper son autorité et à l'affaiblir encore plus. Par réaction, il se rapproche de la ligne la plus dure. Il a d'ailleurs du mal à comprendre qu'on lui demande de lutter contre le terrorisme et qu'en même temps on le condamne pour de multiples violations des droits de l'homme, indispensables dans une telle lutte. Les observateurs les plus lucides israéliens comme palestiniens s'inquiètent de l'état d'esprit de la jeunesse palestinienne qui rappelle celui qui a précédé l'intifada. Ils insistent sur le fait que toute une génération a été formée dans un monde clos du fait des couvre-feux et des interdictions de déplacement instaurées par les autorités israéliennes. Elle ne connaît qu'une réalité extrêmement locale et les seuls Israéliens qu'ils ont côtoyés sont les soldats des barrages. Le monde extérieur est ainsi une réalité abstraite, à commencer par le rôle des grandes puissances ou l'importance du camp de la paix en Israël. Les discours convenus des diplomates contre les incitations à la haine tournent à vide face à ces réalités quotidiennes. C'est là le changement de génération. Avant la première intifada, les habitants des territoires connaissaient les Israéliens parce qu'ils travaillaient massivement en Israël, dans des entreprises de construction, etc. Donc, il y avait, en dépit du rapport inégal, une familiarité entre les populations. Depuis la fin des années 80, c'est fini. Les contacts entre les populations se sont considérablement diminués puisque les gens ne circulent plus. Et donc, pour quelqu'un qui a 20 ans en 2000, l'Israélien, c'est essentiellement le militaire du barrage. C'est une autre vision du monde que pour les générations précédentes. Du coup, les déboires de Jospin renforcent les positions de Jacques Chirac pour la prochaine élection présidentielle. Quant aux étudiants de Birzeit, 35 d'entre eux sont arrêtés par la police palestinienne, ce qui entraîne une grève générale de l'université, devant le risque de voir le mouvement s'étendre aux autres universités palestiniennes. Arafat les fera rapidement libérer. À la fin février, Barak fait savoir qu'on se rapproche d'un accord avec la Syrie comprenant la rétrocession du Golan, le lac du Tibériade et son rivage restant israélien. En même temps, il confirme que le retrait israélien du Liban Sud aura lieu en juillet et propose aux Palestiniens de définir le retrait des 6,1% de la Cisjordanie en choisissant les territoires à l'intérieur d'une offre comprenant 10% de la Cisjordanie, mais cela ne comprend pas les fameux trois villages. Le 1er mars, une attaque de Hezbollah fait 5 victimes au sein de la LS, qui est de plus en plus démoralisée à la perspective du prochain retrait israélien, alors que les votes à la Knesset montrent une désagrégation croissante de la coalition au pouvoir. En revanche, Barack obtient le 5 mars un vote d'approbation à l'unanimité de ce gouvernement pour le principe d'une évacuation du Liban Sud en juillet, même en l'absence d'accord avec la Syrie. Damas réagit avec inquiétude, mentionnant une volonté israélienne de séparer le Liban de la Syrie. En fait, on s'inquiète surtout de la perte d'un puissant moyen de pression sur l'État hébreu. Du coup, les alliés directs du pouvoir syrien au Liban travaillent activement à définir des contentieux qui pourraient maintenir de la tension sur la frontière israélo-libanaise après le retrait israélien. Le président Emil Lahoud, totalement inféodé à la Syrie, met en garde Israël. Le retrait du Liban ne garantira pas la sécurité de la frontière que seul un accord avec Damas sur le Golan peut permettre d'assurer. Il prévoit même le danger d'une nouvelle guerre. En réponse, l'aviation israélienne bombarde dans la Bekaa une base du FPLP-CG d'Ahmad Jibril et du Fatah Intifada d'Abu Moussa, les deux organisations palestiniennes complètement manipulées par Damas. Le message est d'autant plus clair que ces organisations n'ont pas mené d'attaque contre Israël depuis plusieurs années. Donc c'est bien un message politique qui est transmis par le bombardement. Ross a travaillé activement avec les entourages de Barak et d'Arafat pour trouver une solution au blocage de la négociation israélo-palestinienne. Une forme de compromis est trouvée. Le redéploiement israélien sera retardé à la fin d'avril et comprendra bien les fameux trois villages à proximité de Jérusalem. Mais pour ne pas embarrasser Barak, cette concession ne sera rendue publique qu'au dernier moment. Une série de rencontres quotidiennes entre Barak et Arafat du 7 au 9 mars permet de sceller l'accord. Un sommet Arafat-Barak-Boubarak à Sharm el-Sheikh consacre la retrouvaille. Barak montre ainsi qu'il ne néglige pas le dossier palestinien et qu'il n'est pas prisonnier de la négociation avec Damas. Et avec l'accord des parties, Bill Clinton, dans un entretien téléphonique avec Arafat, donne l'assurance supplémentaire que les Israéliens respecteront leurs engagements. C'est donc ça qui est essentiel. Il y a la parole américaine que les trois villages seront bien rétrocédés aux Palestiniens. C'est la parole des présidents des États-Unis. On peut donc annoncer la reprise des négociations israélo-palestiniennes sur la rédaction de l'accord cadre. Tendant que Arafat maintient l'objectif du 13 septembre avec ou sans accord d'Israël. Mustafa Barouti, un politique activiste de Cisjordanie, à ne pas confondre avec son homonyme Marwan Barouti, prévient que la population n'attendra pas cette date, l'exaspération étant maintenant à son comble. Du côté israélien, la rumeur court qu'on va bien rétrocéder les trois villages prochainement, ce qui provoque la menace des partis religieux de quitter la coalition. Et un vote de défiance à la Knesset le 13 mars n'est rejeté que par 47 voix, ce qui montre l'érosion de la majorité gouvernementale. Barak est contraint de réaffirmer publiquement qu'il n'est pas question de diviser Jérusalem, mais en tout cas d'inclure une banlieue arabe dans un champ de redéploiement intérimaire. Néanmoins, le climat est suffisamment bon pour que l'on puisse annoncer le redéploiement imminent, laissant 6,1% de la Cisjordanie, et la reprise des négociations. Et on a un interlude avec la visite du pape Jean-Paul II en Terre Sainte. Il arrive le 20 mars 2000 en Jordanie, première étape de son voyage. Des mesures considérables de sécurité sont prises pour assurer que tout se passe bien. Jean-Paul II rappelle la position du Saint-Siège sur le droit naturel du peuple palestinien à avoir une patrie, ce qui est considéré en langage diplomatique comme le droit à avoir un État. Au mémorial de Yad Vashem, il rend hommage aux millions de Juifs assassinés durant l'Holocauste. En dépit des tensions précédentes entre musulmans et chrétiens, la visite à Nazareth se déroule dans un excellent climat. En même temps, le retrait israélien se termine le 22 mars et on discute ferme à Washington sans réussir à rapprocher les positions. Enfin, on annonce un prochain sommet, Clinton-Assad, à Genève. La visite du pape se poursuit alors que le jeu diplomatique bat son plein. Une messe devant 100 000 fidèles au Mont des Béatitudes rappelle l'importance de la chrétienté orientale. Jean-Paul II multiplie aussi les gestes spectaculaires envers les Juifs. Il demande pardon à Dieu pour les souffrances des Juifs dans un message glissé dans un interstice du mur de Lamentation. Ces actes sont très bien reçus de la part des intéressés, à l'exception des ultra-orthodoxes, toujours très méfiants et pleins de ressentiment pour l'antisémitisme chrétien. Et on va arriver à Genève. À l'arrivée de Ross, le 5 mars, la fameuse carte des lignes du 4 juin est enfin prête. Elle part du fait qu'il n'y a pas de connaissance certaine des positions du 4 juin pour proposer une interprétation qui correspond à la perspective israélienne. Il n'y aura pas d'accès syrien au lac de Tibériade, même la ligne des 10 mètres de la frontière internationale sera déplacée à 400-500 mètres pour la partie nord du lac. En revanche, la rétrocession sera équivalente en territoire de ce qui a été perdu en juin 1967, voire même un peu plus. Alors, vous avez sur cette carte différentes propositions de lignes. Ça, c'est la carte officielle. Je ne sais pas si elle est très lisible à distance, malheureusement. En pointillé, enfin là, c'est la frontière dite de 1923, que vous voyez ici, à 10 mètres du lac. La ligne continue, c'est la proposition de Barak, qui, vous voyez, est nettement à distance de la frontière de 1923. Et la ligne blanche, c'est ce qu'on appelle la ligne HOF, H-O-F, qui est le fait d'un cartographe américain spécialiste du dossier. Il y travaille depuis 30 ans sur la question de la frontière libanaise et de la frontière syrienne et qui est considéré comme le meilleur expert au monde sur ce dossier. Il a publié jadis un petit livre qui s'appelait Galilée Divided, qui était un petit chef-d'œuvre, 150 pages de clarté sur les questions de frontières entre la Syrie, Israël et le Liban. Donc vous voyez que la ligne off passe largement entre qui assignerait où se trouverait la fameuse ligne du 4 juin, est nettement distante de la frontière internationale ou de la proposition de Barak, qui en revanche, la proposition de Barak est plus intéressante ici que la ligne off ou la ligne de la frontière internationale. Alors, une fois qu'il s'est décidé, Barak veut que Clinton se précipite à Damas pour mettre Faisal Assad dans une position de prendre ou à laisser sans aucune marge de manœuvre. Il n'y aura pas de négociations supplémentaires. Ross doit lui faire comprendre que l'on ne dicte pas l'emploi du temps du président des États-Unis. Il faut prendre en compte le prochain voyage de Bill Clinton dans le subcontinent indien. Il s'ensuit un affrontement entre les deux hommes. Il ne peut être question de remettre le voyage présidentiel. Ross propose que Clinton fasse étape à Genève où il rencontrera Assad à l'aller. L'équipe de négociation continuera le travail avec les Syriens et si tout va bien, Clinton, dans son voyage de retour, finalisera l'accord. Barak accepte de mauvais gré. Mais il faudrait encore avoir l'accord de Assad. Or, le président syrien est en plein remaniement ministériel destiné à préparer la succession et ne comprend pas très bien ce qu'on attend de lui. Au téléphone, Clinton lui affirme que ses demandes sont satisfaites et qu'il apporte de bonnes nouvelles, mais qu'il ne peut lui donner des détails avant la rencontre. On avait envisagé d'envoyer Albright à Damas, mais Barak s'y est opposé, craignant de voir commencer un marchandage sur le tracé de la frontière. Assad n'insiste pas. Pour lui, il est clair que la proposition qui lui sera transmise suit bien le tracé des lignes du 4 juin, dont on n'a toujours pas discuté le contenu. En revanche, son emploi du temps et peut-être son état de santé ne lui permettent pas de se rendre à Genève immédiatement. C'est donc à l'occasion du voyage de retour qu'aura lieu le sommet de Genève. En précaution supplémentaire, Clinton demande au prince Bandar de se rendre à Damas pour assurer qu'il s'agit bien des lignes du 4 juin et qu'il a bien le mandat de Barak pour les proposer à Assad. Mais encore une fois, il n'est pas question de transmettre à la partie syrienne le contenu exact de la proposition. Comme Assad a de multiples reprises affirmé aux différents envoyés américains et au président lui-même par téléphone que c'était les lignes du 4 juin ou rien, il ne peut pas comprendre autrement ce qu'on veut lui transmettre à Genève. Il a toujours refusé de considérer la possibilité de procéder à un échange de territoire. En revanche, les négociateurs assyriens à Shepherdstown avaient montré un esprit de flexibilité. Ce qui rend encore les choses les plus complexes est que Clinton et Barak, tout en présentant la carte comme à prendre ou à laisser, s'attendent néanmoins à ce qu'il y ait négociation. Barak pourrait alors réduire la distance de 500 mètres à 100 mètres comme ultime position. Le 25 mars, Barak explique à Ross qu'il faut suivre rigoureusement le texte qu'il a préparé et qu'il est prêt à se rendre immédiatement à Genève. Le diplomate américain l'en dissuade. Il faut d'abord avoir la réaction de Assad avant d'aborder l'ultime marchandage. La délégation syrienne arrive ce jour-là à Genève. Elle comprend plus d'une centaine de personnes, ce qui prouve que Assad est bienvenu pour négocier, puisqu'il arrive avec ses hommes, ses experts, ses juristes, pour définir un accord cadre. Le département d'État fait savoir qu'il y aura deux réunions prévues pour le lendemain, la première pour finaliser la paix israélo-syrienne, la seconde pour traiter de l'avenir des relations syro-américaines. La délégation américaine arrive dans la nuit. Elle est en proie de fortes divisions internes. Le conseiller à la sécurité nationale, Sandy Berger, considère que Ross dépend du président et doit donc traiter directement avec lui, que Madeleine Albright, qui n'a qu'une connaissance superficielle du dossier, doit rester en arrière. Mais la secrétaire d'État n'est pas prête à se laisser faire, d'autant que cela pourrait apparaître comme un des grands succès de l'administration Clinton. Les dernières heures de la nuit sont consacrées à régler le problème de pouvoir au sein de la délégation américaine. La rencontre fatidique commence le 26 mars à 10h30. Après les salutations protocolaires et les photos de presse, Clinton propose que la réunion soit limitée aux deux présidents, leur ministre des Affaires étrangères et leurs deux traducteurs. Ross viendra juste énoncer ses propositions et se retirera. Assad accepte. Le reste de la délégation américaine s'entasse dans la pièce voisine et tente d'écouter la discussion à travers la cloison. Clinton commence par des amabilités, puis suit strictement les instructions de Barak. Il annonce qu'il fera une présentation complète de ce que les Israéliens sont prêts à faire. Assad l'interrompt immédiatement pour lui poser la question du contenu territorial. Clinton commence donc par la phrase « Barak est prêt à se retirer sur une frontière acceptée par les deux parties. » Assad l'interrompt immédiatement. « Que voulez-vous dire par « acceptée par les deux parties » Est-ce la ligne du 4 juin ?» Ross propose alors la carte préparée avec Barak qui interdit tout accès aux Syriens au lac et au Jourdain. Contrairement aux attentes de Clinton et de Ross, le président syrien ne se montre pas intéressé à ouvrir ne serait-ce qu'un débat sur le contenu de la proposition. Il marque immédiatement que pour lui, l'affaire est terminée. Les Israéliens ne veulent pas de la paix. Clinton tente désespérément de sauver la situation en cherchant à exposer le reste des propositions israéliennes et en insistant sur l'engagement américain pour cette paix, ainsi que sur la nécessité de prendre en compte la faiblesse de la situation parlementaire de Barak. Assad répond que c'est le problème de Barak et pas le sien. Une paix juste signifie le retour des terres détenues perdu en 67. À cette époque, lui et ses officiers se baignaient encore dans le lac. Ross n'a pas le pouvoir de dire qu'il est encore possible de négocier sur la distance entre la ligne et le lac. Des accusations implicites sont échangées. À Shepherdstown, les Syriens avaient accepté la souveraineté israélienne sur le lac. La frontière de 1923 passait à 10 mètres. Les Syriens demandent un texte écrit des propositions israéliennes, ce que refusent les Américains, Barak ayant insisté pour qu'il n'y ait pas de document écrit qui puisse l'engager. On fait une petite pause pendant laquelle Ross expose à Charest le contenu de la présentation. En quelques minutes, tout est joué. Mais on tente de sauver l'avenir. Assad affirme qu'il est toujours engagé pour la paix, mais pas cette paix. Il ne veut pas apparaître comme celui qui a fait échouer la paix. Il propose à Albright d'aborder l'autre sujet, l'avenir des relations américano-syriennes, mais la secrétaire d'État lui répond sèchement qu'il n'y aura pas de bonnes relations sans une paix avec Israël. Clinton marque seulement « Le monde jugera, the world will judge ». Mais pour un homme de communication comme le président américain, il n'est pas question de prendre une responsabilité dans l'échec, d'autant plus qu'il a pris le comportement de Assad comme une attaque personnelle. Dans sa conférence de presse du lendemain, à l'occasion de la visite du président Moubarak à Washington, il commence à articuler son discours. Je cite « Je suis allé en Suisse pour rencontrer le président Assad, pour lui éclaircir ce que je pensais être les options et d'entendre de sa part quels étaient ses besoins. Je lui ai demandé de revenir à moi avec ce qu'il pensait devoir être fait. Aussi, la balle est dans son camp maintenant et j'attends avec impatience sa réponse et nous aurons à parler de quoi d'autre je peux faire, de quoi d'autre nous pouvons faire. » Comme s'il ne savait pas que la position syrienne était inébranlable sur les questions des lignes du 4 juin. Clinton continue d'adresser des compliments sur l'attitude positive de Barak. Du côté syrien, on affirme que Clinton n'a rien proposé de nouveau à Genève. La balle se trouve du côté israélien qui n'a qu'à appliquer les résolutions internationales. Quant à Barak, l'échec syrien lui permet de conserver sa majorité chancelante. Il accuse la Syrie de n'être pas mûre pour la paix. Les positions sont devenues claires, les masques sont tombés. Assad ne semble pas prêt au genre de décisions qui sont nécessaires pour en dire un accord de paix. L'échec de Genève est patent, mais personne n'est prêt à en accepter la responsabilité. De ce fait, il n'y a pas dans l'équipe américaine de négociation un réexamen des stratégies suivies, mais plutôt la recherche d'un bouc émissaire. Pour Ross, Assad est venu à Genève sans vouloir la paix. Il est trop préoccupé par les conditions de sa succession. Il n'a pas voulu laisser à son fils une situation profondément instable. Il a dû changer d'avis après Shepherdstown, où tout aurait pu se produire. Mais on ne veut pas se rappeler pourquoi Shepherdstown n'a pas réussi, alors que l'on avait apparemment fait porter la responsabilité de Barak sur Barak et sur les fuites israéliennes. Madeleine Albright est particulièrement montée contre Assad. On lui a proposé 99% de ce qu'il avait demandé et il a refusé. Elle ne se pose pas la question de l'importance du 1% restant. Ce n'est que 3 ans après qu'elle découvrira l'existence de la mission du prince Bandar à Damas et de l'éventuel malentendu que cela aurait pu provoquer. Elle n'avait pas été informée de ce message ambigu qui avait été envoyé directement de la Maison-Blanche. Quant à la version Bandar, c'est qu'il avait bien été mandaté par Clinton et que Clinton n'a pas tenu ses engagements. Donc on a plusieurs versions sur l'affaire. Si Assad s'est refusé à entrer dans le jeu de Ross, il était bien persuadé que l'on allait lui proposer les lignes du 4 juin et non une formule artificieuse qui en vidait le contenu. Sinon, il ne se serait pas déplacé et n'aurait pas amené avec lui une aussi importante délégation. Si on lui avait communiqué officieusement comme proposition américaine la carte montrée à Genève, il ne serait pas venu. L'échec de la négociation repose bien sur une vision américaine qui assimile le processus de paix à un différend commercial ou à un conflit du travail. Le médiateur travaille à rapprocher les positions en obtenant des parties qu'elles abandonnent leurs demandes initiales. Mais ce qui peut être négociable pour les parties arabes sont les conditions de sécurité, démilitarisation par exemple, mais non le contenu territorial. Même pour une différence en apparence modique, il n'est pas question d'abandonner la référence aux lignes du 4 juin. C'est ce qu'avait exigé et obtenu Sadat, mais il avait devant lui un président américain et une administration qui n'étaient pas alignés totalement sur les positions du premier ministre israélien de l'époque. En ne prenant pas en compte les raisons de l'échec de Genève, Clinton et Barack se préparent à de graves déconvenues sur le dossier palestinien. Maintenant, la priorité, c'est le retour aux négociations israélo-palestiniennes et le retrait du Liban Sud. Les discussions de Washington reprennent le 6 avril, mais prennent plus l'aspect d'exchange d'idées que de formulation de propositions écrites. Une lettre de Barack à la communauté juive d'Hébron réaffirmant son droit de vivre en sécurité dans la cité des ancêtres jette un froid. Le premier ministre a beau parler d'une coexistence pacifique, il ne peut ignorer que les colons d'Hébron sont réputés être parmi les plus radicaux. Il continue par exemple d'honorer la mémoire de Baruch Goldstein. En fait, il a été décidé de mettre en place deux canaux de communication. On retourne au Track 2, qui est la base de la négociation. Le premier officiel, celui de Washington, le second secret, revient à Abou Ala et à Hassan Rasfo, leur partenaire israélien étant Shlomo Ben-Ami et Gilad Shar. On se trouverait ainsi dans la réplication du modèle Washington-Oslo du début des années 1990. La difficulté vient du fait que les acteurs du canal officiel doivent ignorer l'existence du second canal. Logiquement, ils devraient traiter des questions dites fonctionnelles, aux relations économiques, organisation des frontières, coordination sécuritaire, questions légales, lieux religieux, etc. Tandis que le second canal devrait aborder les problèmes de fond, frontières, réfugiés, sécurité. Mais les représentants palestiniens ne sont pas au courant de l'existence du second canal. De surcroît, on a reproché aux négociateurs palestiniens d'Oslo de n'avoir aucune préparation juridique ni de connaissance approfondie des dossiers. Aussi à Washington, la préparation palestinienne est bien meilleure grâce au groupe d'experts formé récemment. On a vu qu'ils étaient financés par l'Union européenne. Ils ne peuvent pas comprendre qu'ils sont là pour la figuration et Arafat refuse de donner des consignes précises, semblant ne pas trancher entre les deux canaux. Entre mars et avril 2000, la discussion du canal secret s'en tient à une réflexion générale sur la centralité de la question palestinienne dans le conflit israélo-arabe. Elle est la plus difficile à résoudre parce qu'elle comprend plusieurs dimensions existentielles pour les deux parties. Jérusalem, les lieux saints, les réfugiés, les colonies, les territoires. Mais seul son règlement permet d'assurer une paix durable. La préoccupation israélienne est d'obtenir, une fois le règlement obtenu, la fin de toute autre revendication arabe, l'absence de menace sécuritaire de l'entité palestinienne et une position suffisamment forte pour pouvoir faire face à toute coalition régionale arabe ou islamique contre l'État hébreu. Si la grande majorité de l'opinion publique et de la classe politique israélienne s'est ralliée à l'idée d'établissement d'un État palestinien, il n'est pas question de rétrocéder la totalité de la Cisjordanie de Jérusalem-Est. Comme ses prédécesseurs travaillistes, Barak en est resté au cadre fixé par le plan Alon avec quelques variantes. C'est ce qu'il vient expliquer à Washington le 11 avril 2000. Il a exigé cet entretien pour donner la formule magique qu'il a à l'esprit. Les Palestiniens auraient immédiatement 66% des territoires. Les Israéliens en annexeraient 12% pour des raisons de colonisation et de sécurité, et les 22% restants auraient un statut transitoire avant de passer sous contrôle palestinien. Évidemment, ce territoire palestinien serait enclavé dans l'État israélien. Il ne peut être question de traiter immédiatement de Jérusalem. Courtoisement, ses interlocuteurs lui font remarquer qu'il ne peut y avoir d'accord final si Jérusalem n'est pas compris, mais on trouve que la proposition des 88% est généreuse et on ne voit pas la nécessité de doucher son enthousiasme. Publiquement, on se déclare encouragé par les résultats de cette rencontre. Apparemment, on ne se pose pas la question de savoir concilier cette si généreuse proposition à la position inaltérable des Palestiniens de s'en tenir au retour sur les lignes du 4 juin. La priorité immédiate est le retrait du Liban Sud, encouragé par les Américains qui ne comprennent pas les réticences libanaises et syriennes. Pour la forme, on évoque la reprise des négociations avec la Syrie, mais Barak autorise l'expansion de la colonisation sur le Golan. Sans connaître le contenu des discussions de Washington, Arafat s'en prend publiquement à Barak, qui est pire que Netanyahou, ne respecte pas ses engagements et cède à tous les extrémistes. Mais il est vrai que la presse israélienne donne des informations assez précises sur le contenu des propositions de Barak. On prépare activement le retrait du Liban Sud. Un ministre libanais ayant laissé entendre que l'armée syrienne pourrait prendre position sur la frontière est obligé de se rétracter, tandis que le gouvernement israélien marque que ce serait inacceptable. Plus sérieusement, Israël travaille à établir une coopération avec l'ONU, se rappelant soudainement de l'existence de la résolution 425. Cela concerne l'extension du rôle de la FINUL et la certification du retrait. Tjerns Larsen, le coordinateur de l'ONU pour le processus de paix, devient l'interlocuteur attitré des Israéliens. Le chef de l'ALS, le général Lahad, a beau prétendre que sa milice restera sur place, on commence déjà à préparer des logements en Israël pour les éléments les plus compromis et leurs familles. Les militaires israéliens expliquent publiquement qu'après le retrait, la dissuasion contre des attaques venant du Liban sera assurée par la menace de représailles massives et destructrices des infrastructures du pays des cèdres. Cela ne suffit pas pour calmer les appréhensions des habitants des régions frontalières du Liban. Clairement, le gouvernement libanais ne cherche pas à presser le mouvement. Dans un mémorandum de 3 pages en 8 points, le président Emil Nahoud demande à l'ONU si elle est prête à désarmer les camps palestiniens du Liban. Il s'interroge sur la capacité des casques bleus appelés à se déployer au Liban Sud et évoque des réparations de guerre qu'il évalue à 70 milliards de dollars. Le puissant chef de la Sûreté générale, le général Jamil Sayed, expose bien la problématique libanaise. La guerre civile de 1975 a eu pour cause la plantation des Palestiniens au Liban. Un retrait israélien sur la frontière, garanti ou non par le Liban, ne réglerait pas la question vitale du sort des Palestiniens. Au contraire, il ne ferait qu'en assurer la plantation. Il faut donc continuer à assurer la pression sur Israël, donc ne pas assurer sa sécurité. Les Israéliens veulent établir une clôture permanente le long de la frontière internationale. Intentionnellement ou non, les militaires israéliens ont multiplié les empiétements allant de quelques centimètres à plusieurs mètres, voire bien plus. Il faut donc reprendre les tracés et déterminer les positions. Heureusement, l'invention récente du GPS opérationnel depuis 1995, permet de faire rapidement les corrections nécessaires. C'est la première fois qu'on trace une frontière au GPS. Vous voyez, en histoire, on a en même temps, sur les dossiers aussi triviaux de politique, l'influence de la technologie. Sur le terrain, le Hezbollah concentre ses efforts sur l'ALS, qui enregistre des pertes sensibles, alors que ses membres s'interrogent sur leur avenir immédiat. Discrètement, la France fait savoir qu'elle pourrait accueillir les plus compromis si cela permettait de faciliter les choses. Le 20 avril, c'est au tour d'Arafat d'être reçu à Washington. Sa préoccupation immédiate est de s'assurer que la garantie américaine donnée au retrait israélien des villages arabes à proximité de Jérusalem tient toujours. La date prévue étant le 23 avril, mais à la demande de Barak, il a accepté un délai supplémentaire de 8 jours. Sa position intérieure est faible. Les sondages d'opinion montrent que sa popularité est tombée à 34% et que l'immense majorité des Palestiniens ne croient plus à la bonne foi du gouvernement Barak. 77% d'opinions négatives contre 13% de positives. Mais à Washington, on ne voit que les difficultés parlementaires du Premier ministre israélien. Le Chass menace de quitter la majorité si on n'accepte pas ses demandes de financement pour son réseau scolaire et religieux. Il utilise la question des trois villages à proximité de Jérusalem comme moyen de chantage. Arafat ne reçoit donc qu'un engagement américain et une plus grande présence dans les négociations et l'avertissement qu'aucune des parties ne peut s'attendre à accomplir 100% de ses demandes. En revanche, il est réconforté par les hommages protocolaires qui lui sont rendus de même nature que ceux accordés à un chef d'État. Ceci est interprété comme une reconnaissance tacite de l'État palestinien. Afin de montrer que l'on progresse, on a décidé de donner un lustre particulier à la reprise des négociations officielles à Eilat le 30 avril 2000. Les Palestiniens arrivent furieux à l'annonce d'une nouvelle extension des colonies juives de Cisjordanie. Dennis Ross joint aux discussions avec une délégation américaine le 2 mai. Cela doit couvrir sa participation à l'autre canal. Afin d'assurer la crédibilité du canal officiel, Israéliens et Américains ont décidé de soumettre une ébauche de règlement territorial. Le projet israélien part des besoins d'Israël et opère ainsi une série de retranchements. Il en résulte que les Palestiniens obtiendraient immédiatement 60% de la Cisjordanie et ultérieurement 20 autres %. Leur territoire serait tronçonné par des blocs de colonisation qui ne leur laisseraient que des trois corridors de communication. Enfin, ils seraient totalement enclavés. Bien qu'il s'agisse là d'un point de départ de négociation, la partie israélienne n'a pas le pouvoir de modifier l'offre. La colère palestinienne éclate immédiatement. On ne leur propose que quelques cantons séparés et non un État. Il n'est pas possible de négocier sur cette base et les négociateurs quittent la salle. Ross les rattrape pour exiger d'eux soit des contre-propositions, soit de revenir à un autre sujet. Ils acceptent. On aborde la question de sécurité. Les Israéliens montrent leur obsession d'une coalition arabe dirigée par l'Irak qui menacerait la frontière orientale, ce qui implique le contrôle de la frontière jordanienne par Israël. Pour les Palestiniens, on est en pleine fantaisie vu la réalité du système politique arabe, la puissance de feu de l'armée israélienne et son soutien international. On essaye d'aborder la question de l'État, mais les Palestiniens rejettent cette perspective. Un État sans frontières n'a pas de sens. Darlan se montre plus pragmatique. Il évoque une cession de 4% de la Cisjordanie à Israël en échange d'une quantité équivalente de territoires cédés par Israël, ce qui est immédiatement rejeté par l'autre partie. Dennis Ross revient à la médiation américaine. Il discute séparément avec les deux côtés pour les pousser chacun à proposer un projet global couvrant tous les dossiers. Les Américains travailleraient ensuite à rapprocher les positions sur chacun de ces dossiers. Il reste à convaincre Barak d'accepter le traité de Jérusalem. Alors, je vais vous faire une pause à ce moment-là. Donc, est-ce que ces négociations vont donner quelque chose? Est-ce que les Israéliens vont quitter le Liban Sud? Ce sera pour le prochain épisode. Vous avez 5 minutes.